result is everything we know.
Stacking, flipping, stacking.
Yeah. Right now with DJ Rossi
Rock. Oh, yeah, business,
Je m'appelle Alice Wu et voici quelques des gros titres récents. Le samedi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'épidémie de la variole simienne une urgence de santé publique de portée internationale. Celle-ci est le plus haut niveau d'alerte possible et censée encourager les nations à investir plus en traitements et vaccins. Il y a environ 700 cas de variole simienne au Canada et presque une demi sont au Québec. Et le gouvernement du Québec a autorisé le vaccin de Moderna, appelé Spikevax, pour les enfants de 6 mois à 5 ans. Les parents peuvent maintenant programmer un rendez-vous en utilisant le portail de santé numérique Clic Santé. Le gouvernement recommande que les enfants reçoivent 2 doses et attendent au moins 8 semaines entre eux. Certains enfants immunodéprimés peuvent recevoir une 3e dose. Et cette semaine, le pape François visite le Canada et il visite la ville de Québec en particulier du 27 au 29 juillet. Selon l'Église catholique, le but de la visite est de promouvoir la guérison parmi les communautés Premières Nations, Métis et Inuits, dont les enfants ont été des objets d'abus dans les pensionnats gérés par l'Église. Et Montréal et Place des Arts sont devenus la 20e et 21e gare de métro accessibles dans la ville. Cela signifie qu'elles ont maintenant des entrées qui permettent l'accès chaises roulantes ainsi que des ascenseurs.
Salut, ici Matt Track, vous écoutez CKUT 90,3 FM.
La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pomme pourrie quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAQ, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chauchaké, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet.
L'idée d'abolir la police n'est pas nouvelle. Mais depuis l'assassinat de George Floyd et de Breonna Taylor l'année dernière aux États-Unis, et avec chaque nouvelle instance de violence aux mains de la police, son abolition fait de plus en plus partie des débats publics sur les abus policiers. De plus en plus de gens se rendent compte que les tentatives de réformer la police ne donnent pas de résultats concrets et que la violence et le harcèlement ne cesseront qu'avec la disparition complète de la police. Parce que la grogne contre le système policier ne cesse d'augmenter avec chaque victime, plusieurs mouvements opposés à ce système sont nés. Certains d'entre eux passent par le définancement, alors que d'autres appellent carrément à l'abolition. À Montréal, la 25e manifestation annuelle contre la brutalité policière de cette année a pour thème l'abolition de la police. Pour cet épisode du Verger au complet, nous vous présentons une entrevue avec un membre de COBP, le collectif opposé à la brutalité policière, le groupe qui organise cette manifestation chaque année. Peux-tu nous dire c'est quoi COBP, le collectif opposé à la brutalité policière?
Oui, le collectif opposé à la brutalité policière est né en 1997 suite à un échauffourée, on dirait, une bagarre entre des militants antifascistes et des militants néo-nazis. Et la police s'en est mêlée et s'en suivi un gros cas de brutalité policière qui a donné naissance à un collectif séparé de chapitre de Antiraciste Action de l'époque, qui est devenu le collectif opposé à la brutalité policière. Généralement, on fait du suivi, de l'accompagnement et on dénonce les cas de brutalité policière localement, généralement, qu'on fait quand nous, on s'en mêle directement. Et chaque année, on organise la manif du 15 mars, qui est la journée internationale contre la brutalité policière. Et sur notre site Internet, on poste beaucoup des reportages et nouvelles, des updates sur les situations entre les populations et les polices un peu partout sur la Terre.
En général, est-ce que tu crois que la police fait un bon travail? C'est-à-dire arrêter les méchants et protéger la population?
Ouais, comme je disais tantôt, faudrait, dans le fond, définir ce qu'est un méchant et qui est la population protégée, dans le fond. Mais si on s'en fie à votre premier épisode, la population, c'est les gens riches, les membres du gouvernement et les gens qui font rouler le système capitaliste. Ils sont généralement très bien protégés. Et les méchants, c'est pas mal nous autres. Dans le fond, dans tout ce qui est comme sortir de notre docilité pour remettre en question quoi que ce soit. Là, évidemment, il faudrait aussi définir la docilité, là, parce que, tu sais, on s'entend que la police pourrait être arrêtée pour cracher sur la rue, mais là, ça, sinon, tu sais, ça devient une longue histoire, mais on dirait, pour une réponse courte, oui, ils font leur job, mais, tu sais, ça dépend beaucoup de la définition que les gens ont de population et de méchants.
Crois-tu que les abus policiers sont des actes isolés faits par quelques mauvais policiers, qu'on appelle souvent les pommes pourries, et que si la police se débarrasse d'eux, ça pourrait régler le problème?
Je dirais que non. La réponse courte, c'est non. C'est pas en se débarrassant de quelques policiers qui réglaient le problème. Il faut aussi savoir qu'est-ce qu'on entend par pomme pourrie. C'est qu'il y a souvent une expression qui est utilisée par les médias de masse, le gouvernement, la police elle-même, pour dire qu'il y a des policiers qui font mal leur job. Mais en fait, ils ont des boucs émissaires pour prouver la chose, comme on l'a vu dernièrement avec l'ex, maintenant ex-agent du SPVM, Stéphanie Trudeau, fameux agent de 728, qu'on a probablement presque oublié avant qu'elle nous rappelle cette semaine qu'il n'avait pas fini de la passer au cash pour montrer qu'il y était des personnes qui pouvaient se débarrasser des dites bottes pourrites.
Les lois, supposément neutres, sont appliquées de manière à maintenir un ordre capitaliste établi. C'est par exemple, c'est interdit aux riches comme aux pauvres de coucher sous les ponts. Penses-tu que les policiers appliquent les lois de manière neutre? As-tu des exemples?
Fait qu'encore une fois, la réponse courte, c'est non, dans le sens que on entend souvent ici, en tout cas localement, la ville de Montréal ou le gouvernement du Québec parler de la discrétion des policiers. On entendait dernièrement beaucoup la ministre de la Sécurité publique provinciale parler de la discrétion des policiers par rapport au couvre-feu, par rapport à la quantité d'infractions données par rapport au couvre-feu. Donc, la discrétion des policiers, par définition, c'est pas neutre. Et aussi, c'est souvent... Puis en plus, c'est dépendant de qu'est-ce qu'on reproche aux policiers, ils ont tout le temps de la discrétion ou ils obéissent aux ordres. Dans le fond, on ne sait jamais quelle est la neutralité. Et aussi, la loi en tant que telle n'est pas neutre. Fait que tu ne peux pas vraiment l'appliquer de manière neutre.
Des groupes communautaires ont sorti les constats d'infraction émis aux personnes qui donnaient l'adresse de ressources communautaires lors d'arrestations et rapportent près de 4000 constats d'infraction aux personnes en situation d'itinérance, avec près du quart émis pour des infractions aux règlements municipaux. Les constats les plus fréquents sont de boire dans des lieux publics, ce qui est difficile à éviter quand la caractéristique première des personnes en situation d'itinérance est de ne pas avoir d'endroit privé. Entre la loi qui n'est pas neutre et les policiers biaisés, c'est plutôt dur à dire. Est-ce que la police est la même partout à Montréal ou son comportement change selon les quartiers? Est-ce que la police utilise des données criminologiques pour cibler certains quartiers et certains milieux?
Ils sont beaucoup plus présents dans certains quartiers, souvent les quartiers racisés, les quartiers qui ont plus d'inégalités sociales, les quartiers les plus pauvres. Fait qu'il y a beaucoup de... C'est clairement, la police n'est pas les mêmes dans tous les quartiers. Quelles sont les données criminologiques? Qu'est-ce que ça veut dire, les données criminologiques? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus de trafic de drogue? Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de guns, alors qu'il n'y a pas beaucoup de guns tant que ça au Canada? Est-ce que... c'est qui sont les criminels? Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de gens de couleur qui conduisent des voitures? Tu sais, comme, est-ce qu'on traverse la rue sous la lumière rouge? Tu sais, comme, quels sont... T'sais... Quelle est la criminalité? Pour moi, c'est aussi, ça peut être une autre discussion, mais c'est aussi relié à la gentrification. Comment les gens sont policés dans certains quartiers de Montréal ou ailleurs au Québec, en fait.
Comment les conditions de remise en liberté affectent les personnes particulièrement visées par les opérations policières?
Ça dépend vraiment beaucoup de qui est visé par les opérations. Il y a quand même des problèmes par rapport à comme... trouver un emploi, se déplacer, voir, tu sais, dépendant des conditions, ils peuvent peut-être pas voir leurs amis, leur famille. Tu peux souvent pas sortir d'une certaine juridiction, genre la ville ou certains quartiers. Des fois, si on parle de l'oppression des travailleuses du sexe, par exemple, souvent on les empêche d'être dans les quartiers où est-ce qu'elles travaillent. Par exemple, si on parle des gens qui n'ont pas le statut de citoyen canadien, ben ça peut sérieusement empiéter leur démarche pour devenir citoyen canadien. Fait qu'il y a plein, dépendant des gens, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Tu sais, ça les affecte de manière très différente, genre.
Les personnes les plus vulnérables dans notre société sont les plus désavantagées par le système. Puis ces personnes-là ne font pas appel aux services de la police quand elles subissent des abus. Quand on est pauvre, quand on en arrache, quand on vit dans la rue, on sait que la police nous a déjà à l'œil. Crainte de déportation pour les personnes qui n'ont pas la citoyenneté canadienne, sous dénonciation des agressions sexuelles, sous dénonciation des attaques racistes. Beaucoup de gens ne dénoncent pas par peur d'être jugés par les policiers ou même de s'attirer les ennuis. On sait que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale et les personnes racisées rapportent peu les crimes commis contre elles et eux. Est-ce que tu penses que le traitement policier a quelque chose à voir avec ça?
Oui. Encore une fois, une réponse courte. Il y a de plus en plus d'exemples, de plus en plus de statistiques. Mais je pense que dernièrement, il y avait un article qui parlait de fait que la majorité des personnes noires tuées par le SPVM dans les dernières années étaient en situation de crise de santé mentale. On se rappelle des cas de Pierre Coriolan et de Alain Magloire qui ont été médiatisés, ou est-ce que, surtout dans le cas de Pierre Coriolan, dont l'enquête de déontologie vient de se de terminer, les images sont sorties, fait qu'on a tous pu voir comment la police agit. Puis c'est pas, tu sais, le cas de Pierre Coriolan, c'est pas un cas isolé, c'est juste un cas qui a été médiatisé. Fait que dans le fond, les gens en détresse de santé mentale vont... T'sais, pour avoir, dans ma vie, été témoin d'opérations policières sur des gens qui ont de santé mentale, c'est... T'sais, si tu veux faire peur à quelqu'un, hein, t'sais, qui est en crise de santé mentale, appeler la police, c'est la meilleure façon de comme, s'assurer que le problème va être pire. Dans le fond, là. Puis clairement, les policiers n'ont aucune idée quoi faire dans ces affaires-là, genre. Puis ces gens-là vont être criminalisés d'une manière comme... qui fait aucun sens. Ça. C'est difficile d'expliquer comment qu'on criminalise quelqu'un en crise de santé mentale. De la même façon qu'on criminalise quelqu'un qui fait une prise d'otage avec genre qui est lourdement armé, là, finalement. Fait que, ouais, c'est normal qu'ils appellent pas la police parce que qu'est-ce qu'ils voient dans les médias? Puis qu'est-ce qu'ils subissent, clairement, leur dit comme, appelle pas la police, sinon tu vas avoir un straight jacket, puis on va te cramer le cerveau dans un hôpital psychiatrique. T'sais, c'est pas mal, ça. T'sais.
En cas d'abus policier, est-ce que les mécanismes pour rendre les policiers redevables de leurs actes fonctionnent? Qu'est-ce que la Fraternité des policiers de Montréal?
Ben, si on parle de rendre les policiers redevables à la population qui va au bureau de déontologie ou à la cour, ça ne fonctionne pas pour eux. Presque tous les cas de déontologie sont en faveur des policiers. Comme presque, c'est très rare. On pourrait facilement... si vous faites une recherche là-dessus, je vous dirigeais vers plusieurs écrits d'Alex Popovic. C'est très rare que la déontologie blâme un policier. Puis même quand les choses vont à la cour, ce matin, j'ai regardé un vidéo de, je ne me rappelle plus quel média, d'un couple qui avait poursuivi le SPVM pour profilage racial. Les poursuites ont été abandonnées mystérieusement, la personne va faire une deuxième poursuite, ça c'est quelque chose qui arrive comme presque tout le temps. Pour la deuxième partie de la question, la Fraternité des policiers et policiers de Montréal est un syndicat, comme de sa manière la plus straight de le dire, dans le fond, c'est le syndicat qui défend les policières et policiers de Montréal pour la ville de Montréal, pour le Québec, il y en a une au Canada, il y en a une d'Amérique du Nord, il y en a une de chaque État américain. Des fois, ça change un peu de nom. La façon qu'il marche, l'impression que ça donne, en fait, c'est que c'est un peu... Tu sais, ça s'apparente aux gangs de rue ou même aux crimes organisés qui ont beaucoup de pouvoir. Dans le fond, la Fraternité des policiers est un syndicat qui a quand même beaucoup de pouvoir, qui font des sorties, surtout quand les politiciens essayent d'amadouer la population par rapport à leur frustration, par rapport à la police, c'est souvent la fraternité qui, tout d'un coup, fait une sortie pour défendre ces policiers. Genre, on peut avoir l'exemple de l'affaire Camara encore une fois, que c'est passé il y a environ un mois maintenant. Ou est-ce que la Fraternité des policiers est tout de suite sortie pour défendre les actions des policiers contre M. Camara? Ça, c'était même avant, je pense, que les accusations tombent. Mais même après que les accusations soient tombées contre M. Camara, il y avait quand même une défense des actions des policiers. Puis ils n'ont aussi pas de moyens de les rendre redevables, eux, parce que c'est pas... La Fraternité des policiers ne sont pas le corps policier. C'est comme leur syndicat. En tout cas, c'est comme une espèce d'organisation parapolicière. C'est un peu weird. Et c'est comme détail ici. Tu sais, je ne sais pas si c'est le même cas partout dans les provinces. Je pense qu'en Ontario aussi, mais comme les membres du BEI, de la Sûreté du Québec, blablabla. Tu sais, les policiers qui enquêtent sur les policiers sont aussi membres de la fraternité des policiers. Fait que c'est un peu comme... Ouais. C'est comme un gros bouclier, la fraternité des policiers. Ouais.
Le système de justice, qui a entre autres éliminé le règlement P6, ne pourrait-il pas empêcher les abus des policiers?
Ben, il faut savoir que le règlement P6 est tombé à cause de l'acharnement des militants et militantes qui ont été dans le système judiciaire pour pousser ça après plusieurs années. C'est-à-dire que, oui, il a été éliminé après poursuite, et comme, etc., etc. Fait que, tu sais, je dirais plus que les militants ont éliminé le règlement, que la justice elle-même, même si c'est comme un... sur papier, une décision d'un juge. Je dirais que c'est un des outils qu'on peut utiliser, mais qu'il faut toujours... Tu sais, il faut comprendre que le système de justice et la police vont un peu main dans la main, tu sais. C'est difficile à expliquer de manière claire, je trouve, mais tu sais, je pense que quand tu vas au palais de justice, tu comprends ces affaires-là assez rapidement, tu sais, les policiers... Mais il y a des policiers qui travaillent au palais de justice, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, oui. Il y a une division des SPVM qui travaille au palais de justice, c'est des gens qui se voient tous les jours. Tu sais, il faut vraiment un travail acharné des militants militantes par rapport à la légalité, avoir, tu sais, des avocats qui sont dans le bord. Heureusement pour nous, on en a. Mais c'est vraiment comme... Je ne dirais pas que c'est le système de justice en tant que tel, mais plus l'acharnement de nous qui pousse le système à reconnaître que on devrait avoir un rapport de force par rapport à la police. Puis souvent, c'est sûrement une interprétation de loi claire. Puis à la fin aussi, il y a il va y avoir une nouvelle stratégie de la police qui vont choisir une autre loi. T'sais, le règlement P6 était une loi. Le règlement 500.1 du Code de la route était une loi qui était utilisée régulièrement avant aussi, pour arrêter les gens dans les manifestations parce qu'ils étaient sur la rue. Fait que maintenant, on utilise, tu sais, comme, on va sûrement utiliser d'autres lois, mais présentement, c'est le couvre-feu, en fait. Le couvre-feu et le confinement, là. Maintenant, ça sort beaucoup, là. Il y a 1000 constats d'infraction du couvre-feu qui sont donnés au Québec chaque semaine. C'est beaucoup.
Finalement, est-ce que tu penses que c'est possible d'avoir un bon système policier?
Un bon système policier? Je dirais que je vais faire l'avocat du diable de moi-même. OK? On va dire... Il y a des exemples. Au Mexique, il y a des villages qui ont décidé... Là, je parle pas des apatistes, là, je parle de d'autres villages, mais c'est vrai qu'ils sont dans la même région. En tout cas, mais il y a des villages qui ont décidé de s'armer pour avoir un rapport de force contre les cartels qui contrôlaient complètement leur région, leur village et leur ville. Puis ils se sont fait des espèces de milices locales qui font une certaine job policière, mais en fait, ils s'occupent pas de ce qu'on appelle les petits crimes sociaux ou whatever. Ils s'occupent strictement de s'arranger que le cartel arrête de contrôler tout ce qui se passe. Tu sais, il faudrait quasiment... ce serait quasiment un travail long, ardu, là, pour définir qu'est-ce que pourrait être une bonne police. Tu sais, je le vois pas. Une bonne police. Mais tu sais, c'est vraiment un... Tu sais, ce serait un long débat politique, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des personnes très méchantes, puis que la seule façon de dealer avec eux, c'est de les arrêter, de les mettre dans une prison, puis là, ça devient une longue discussion de... Si, tu sais, en tout cas, il y a plein... Tu sais, je pourrais faire des exemples sur comme les 200 dernières années de police moderne. Je vois pas comment qu'il y a une bonne police. Vraiment, tu sais. Si je parle, tu sais, l'exemple que je trouve qui est un peu drôle, pour être un peu plus positif, c'est il y a quelques années, je pense, c'était en 2012, peut-être plus tard, plus 2014, c'est pendant la montée du mouvement Black Lives Matter, puis il y avait beaucoup d'émeutes raciales aux États-Unis, dans le fond, et le maire de New York avait blâmé un peu la police pour avoir une mauvaise relation avec sa population. Fait que là, la police a décidé d'arrêter de donner des tickets pour que... se fâcher contre le maire de New York. Puis en fait, qu'est-ce que ça a donné? Un, ça a donné une baisse du taux de crime à New York dramatique, parce qu'en fait, les gens étaient criminalisés pour traverser la rue, finalement. Puis aussi, ça leur a donné drôlement, la ville de New York a dû avouer qu'il y avait un quota de tickets à ses policiers et leur dire qu'il y avait un temps restreint pour trouver les 12 millions de dollars qui manquaient pour qu'on fasse payer leurs vacances. Fait que finalement, tu sais, c'est que... Qu'est-ce que la bonne police, en réalité? Genre, la police ne sert que servir et protéger leur maître. Et si on change complètement ce système-là, on n'aurait pas besoin de la police, tu sais. comme la bonne police, c'est une police qui fait la job qu'elle fait maintenant. T'sais. Fait que la pas bonne police, elle n'existe pas. Genre, ou la bonne police, selon notre côté, c'est une police qui n'existe pas, dans le fond.
Si ça ne vaut pas la peine d'essayer de réformer la police, ça serait mieux de l'abolir?
Ouais, ben la police a été réformée comme littéralement des centaines de fois, là. La police est réformée tout le temps. Il y a plein de réformes que t'entends jamais parler, là, comme, mais la police est tout le temps réformée, là. Et ça change rien. Genre, absolument rien, là. Ouais. En fait, la réforme policière, c'est des réformes administratives plus que d'autres choses, là. Même quand ils sont publiquement dits comme... C'est tout le temps juste des réformes administratives, en réalité.
Mm-hmm. Si des jeunes font trop de bruit, on appelle la police. Si une personne a une crise de santé mentale, on appelle la police. Le fait qu'il y ait une classe de personnes en charge de régler tous nos problèmes affaiblit et déresponsabilise nos communautés. Cela nous empêche de travailler collectivement pour régler nos problèmes de façon autonome en apprenant à connaître et à comprendre nos voisins et voisines. There's a world that I see when I close my eyes, full of happiness and love and peaceful vibes. No stress, no work that we don't decide to do collectively to build community and thrive. Drinking water out of streams so clean they shine. Sleeping in with our lovers, not pressed for time. No jails, no cops, no wars, no crime. Where everything is everyone's and nothing's mine. And everything is fine, everything is shared. Everyone is loved and everybody cares for the earth and honors all those who live here. Fresh food, breathing fresh air. To the stars we stare, storytelling by the fire. Laughter everywhere, joy in every smile. Feeling so free, feeling so inspired. Just close your eyes and visualize the world your heart desires. I can see it. Le 15 mars 2021, c'est la 25e manifestation annuelle contre la brutalité policière. Peux-tu nous parler de la manifestation?
Oui, on invite tout le monde à venir au Métroparc, en fait, au Parc de la Gare Jean-Talon, comme ça s'appelle officiellement, à côté du métro. C'est la 25e année de suite, qui est quand même un milestone, comme on dit en anglais. Ça va être une manifestation... On peut jamais vraiment prédire qu'est-ce qui se passe un 15 mars. On invite quand même les gens à braver la température, quelle qu'elle soit, de venir montrer, démontrer, exprimer leur frustration, leur désaccord, que ça soit pour l'abolition ou le définancement. On invite tout le monde à venir. Plus on est et plus on est sécure, je pense. Je dirais, après 25 ans, on a toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on a une police oppressive parce que c'est sa nature et une population qui l'a subie. Et nous nous sommes dotés d'une journée internationale pour montrer notre rage. Cette année, j'imagine, ben, comme on l'a dit, le thème, c'est l'abolition de la police. Moi, je ferais un focus spécial sur... la nomination de Yann Lafrenière comme ministre des Affaires autochtones, la nomination d'un ministre blanc sur la lutte contre le profilage racial, etc., etc. Et les 1000 tickets par semaine donnés pour le confinement qui va faire que je sais pas combien d'argent le gouvernement du Québec a supposément perdu, mais il va les regagner. Dans le fond, rendu-le. Voilà.
À Montréal, on est toujours loin de l'abolition de la police. Et même si beaucoup de gens ont fait pression pour que la Ville de Montréal définance en partie la police, le budget du SPVM a augmenté cette année, sous prétexte qu'on ne peut pas définancer la police en temps de pandémie. Le débat sur l'abolition de la police doit faire son chemin ici et ailleurs. Parlez-en autour de vous. Pour plus d'informations à propos de COBP, vous pouvez visiter le site Internet du groupe au www.cobp.resist.ca. En attendant le prochain épisode du Verger au complet, on se voit dans la rue!
Moi, je trouve ça beau, le drapeau qui brûle au vent. Un amassis de cendres qui se répand sur les tombeaux des hostiles surveillants. Y'a pas de quoi être fier,
La police et les prisons sont des institutions violentes et racistes, issues d'un héritage colonial qui servent qu'à reproduire les injustices du système capitaliste. Tous les jours, même quand c'est la soi-disant paix sociale, la police violente, harcèle et incarcère les personnes les plus démunies et les plus opprimées. Puis quand elle se soulève, c'est encore la police et la prison. Le problème, c'est pas seulement les dérapes violentes de la police, mais l'institution policière elle-même qui constitue une forme de violence, au même titre que les tribunaux, les lois et les prisons. Est-ce qu'on peut vraiment parler de pomme pourrie quand l'institution entière existe pour réprimer et opprimer? Le Verger au complet, c'est une série de podcasts sous forme d'entrevues touchant à différents thèmes liés à la police, aux prisons et à la justice, mise sur pied par la CLAC, la Convergence des luttes anticapitalistes, un groupe basé à Chauchaké, Montréal, en terre autochtone non cédée. Nous vous proposons une analyse critique qui s'oppose à la vision libérale, celle qui préfère cibler les pommes pourries dans le panier plutôt que de s'attaquer au système d'oppression. Ne leur laissons pas cette chance. On ne réforme pas un système aux fondations pourries, on le démolit. Attaquons-nous au verger au complet. Comme on l'a mentionné dans le dernier épisode, les prisons n'ont pas toujours existé. Leur apparition s'inscrit dans un processus de gestion des corps et des vies humaines qui accompagne la naissance du capitalisme. Les prisons comme telles font bien sûr partie d'un plus grand système carcéral, très développé dans notre société, qui ne sert pas seulement à punir une personne qui a commis un geste considéré illégal, mais permet aussi à l'État d'exercer un contrôle social. Les répercussions de ce système sont néfastes pour les personnes emprisonnées et leur communauté, aussi bien que pour le reste d'entre nous qui vivons en connaissant les conséquences de ce qu'ils représentent. Pour en apprendre plus, nous vous présentons une entrevue avec Ellen Hudson. Depuis une vingtaine d'années, Ellen Hudson milite en solidarité avec des prisonnières et prisonniers. Elle habite sur le territoire Kaninkahaka, non cédé, aussi connu sous le nom de Montréal, mais travaille principalement avec des prisonniers politiques aux États-Unis. Elle s'identifie comme une femme noire, queer et anarchiste. Au niveau politique et social, qu'est-ce que c'est la prison?
Bien, la prison, tout d'abord, pour moi, l'important est de mentionner que la prison, c'est pas juste un endroit qui existe, c'est une institution sociale. C'est-à-dire, il y a une fonction que la prison ça sert à quelque chose dans notre société et puis c'est lié avec toute autre institution dans la société. Donc, c'est clair que c'est lié au gouvernement, à la police, mais il faut aussi être conscient que c'est lié à l'économie, à le système d'éducation, les frontières, tout ce qui fait fonctionner la société, il y a un lien avec la prison. Et c'est quoi la fonction de prison? Pour moi, à mon analyse, c'est un contrôle social, spécifiquement quand la société, le capitalisme, l'État cause la précarité, il faut faire quelque chose avec ces gens précaires et il faut faire quelque chose pour faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a des pouvoirs, que l'État a les pouvoirs sur eux. Alors, c'est ça la fonction de prison, d'avoir un endroit pour garder comme un surplus de personnes, de travailleurs, et pour envoyer le message clairement que la coercion, il est là comme menace à la population, à la peuple.
Peux-tu nous dresser un portrait de la population carcérale au Canada? Qui se retrouvent en prison et quels sont les liens entre leur incarcération et les autres formes d'oppression auxquelles ces personnes font face?
Mais comme j'ai dit, la prison est là pour envoyer un message et pour contrôler des gens. Alors, ça se prend pas que les gens marginalisés, les gens opprimés se retrouvent en prison en grand nombre. Donc, au cours des dernières décennies, mettons les dernières 4 décennies, on a voir une augmentation en général en le nombre de personnes en prison dans le monde occidental, c'est-à-dire des pays comme Canada, les États-Unis, en Europe, etc. Au Canada, on n'a pas vu augmenter notre population incarcérée, mais on a vu augmenter les personnes opprimées. Pour donner un exemple, en 2001, je veux dire, le pourcentage de prisonniers dans les prisons canadiennes fédérales où se retrouve tout le monde qui purge une peine de plus que deux ans ou plus, le taux de personnes autochtones était juste en bas de 20%. Là, c'est en haut de 30%, juste en haut de 30%, 30.5%. Quand on regarde chez les femmes autochtones, c'est plus que 40%. Et avec les personnes jeunes, n'importe leur genre, c'est aussi élevé comparé à cette 30% qui est déjà élevé par rapport à la 5% de personnes au Canada, dans l'État de Canada, qui sont autochtones. Donc, c'est une grande surincarcération. Et ça, on voit aussi chez les personnes noires. Donc, ça, on parle un peu de racisation des prisonniers et prisonnières, mais aussi quand on regarde tout ce qui est l'oppression, la pauvreté, des problèmes sentimentaux, l'analphabétisme, tout ça, c'est surreprésenté en prison. Donc, on voit clairement que les personnes opprimées sont les personnes qui se retrouvent en grand nombre derrière les barreaux.
Prison touche-t-elle la vie des gens qui ne sont pas elles-mêmes emprisonnés?
Moi, c'est très clair que la prison, ça touche la personne emprisonnée, mais ça touche des communautés, ça affecte des communautés. Quand quelqu'un est en prison, cette personne laisse leur famille, laisse leur job qui est souvent enraciné dans leur communauté. Mettons, par exemple, une communauté noire comme Montréal-Nord, juste pour prendre un exemple. Mais ça, je vais parler du État canadien, mais la même dynamique se reproduit dans tous les pays occidentaux. Donc, quand on enlève en grand nombre tout le monde qui peut travailler, tout le monde qui peut être tête d'une famille, tout le monde qui a les rôles dans une communauté où ils transmettent des savoirs culturels, toutes ces sortes de choses qui peuvent être un peu le leadership, pour le dire comme ça, d'une communauté. Si ces gens sont derrière les barreaux, c'est pas juste eux qui sont affectés. C'est sûr que c'est eux qui sont affectés très, très concrètement, mais c'est aussi comme une cercle vicieux qui se produit dans le sens que les jeunes, les enfants dans les communautés où beaucoup d'adultes sont emprisonnés vont voir leur chance d'être emprisonnés aussi dans le futur augmenter.
Donc, en plus de cibler et d'affecter les populations déjà les plus opprimées et les moins privilégiées de la société, le système carcéral perpétue ces oppressions. Au lieu de régler quoi que ce soit, la prison accentue les causes de la soi-disant criminalité. Pour toi, l'abolition des prisons est une réponse à ces injustices. Peux-tu nous expliquer ce qu'est l'abolitionnisme?
Mais l'abolitionnisme, c'est clair par son nom, c'est qu'il a pour but d'abolir la prison, de faire en sorte qu'on va avoir une société sans prison. Quand je mentionne ça, souvent j'ai une réaction que c'est une idée un peu ridicule ou un peu utopiste, dans le sens que qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce qu'on appelle des crimes, c'est-à-dire des méfaits entre des personnes, quelqu'un blesse quelqu'un d'autre ou prendre quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Comment est-ce qu'on peut régler ça sans prison? Honnêtement, j'ai pas de réponse très, très simple et très concrète à ça, mais juste pour dire qu'il y a des sociétés où ça se fait pas de façon comment on règle ça dans notre société, c'est-à-dire avec des prisons. L'autre chose pour mentionner est que si on veut régler des problèmes entre les gens en dedans des communautés, c'est très, très différent d'y impliquer l'État. Parce que avec la notion des crimes qu'on a avec les cours, la police, la prison, ce qui vient avec est que toute l'oppression que je viens de mentionner, mais aussi que si ce n'est plus conceptualisé comme un méfait contre une autre personne, mais plutôt un méfait contre l'État. Donc, mettons que moi, je prends votre bicyclette, je prends ton bicyclette à toi. Avec la notion des cours, des prisons, des crimes, ce n'est pas entre moi et toi, c'est entre moi et l'État. Donc, ça devient complètement autre chose. Avec l'abolition des prisons, on veut toujours avoir une façon de régler ça entre moi et toi, entre tout le monde qui est affecté, mais ce n'est plus une affaire d'État, ce n'est plus une méfaite contre l'État. Et en plus de ça, au-delà de ça, ce n'est plus question de punir. Parce que ça, c'est l'autre aspect de l'abolitionnisme et c'est axé sur des solutions, c'est axé sur ce qu'on appelle en anglais restorative justice. Il y a sûrement un mot français pour ça, mais ça m'échappe. C'est-à-dire de retourner à un état, pas un état comme l'état, mais comme une situation où tout le monde est correct, où on a guéri l'injustice qui s'est produite. L'autre chose que j'aimerais mentionner avec l'abolitionnisme est que c'est à la fois pour faire en sorte qu'il n'y a plus de prison et en même temps pour essayer de bâtir les alternatives. Donc, il y a une lutte anti-carcérale, mais il y a aussi une lutte pour, une vision de notre société.
Restorative justice, en français la justice réparatrice, sert, en bref, à trouver un moyen pour la personne qui a causé un tort à une ou des personnes de réparer le mal qu'elle a causé, selon les besoins et les demandes de la ou des victimes. Au soi-disant Canada, le gouvernement fédéral s'est approprié le terme justice réparatrice en lui donnant une place dans son système carcéral punitif. Aujourd'hui, certains certaines préfèrent donc parler de justice transformatrice, soit une forme de justice refusant toute collaboration avec l'État et misant sur la transformation des mentalités, notamment par le biais de processus entre les victimes/survivantes et les personnes ayant causé du tort. Nous allons revenir sur ces notions dans un des prochains épisodes du Verger au complet, qui portera plus spécifiquement sur les formes de justice alternative. Parmi les gens qui voudraient voir un monde sans prison, il y en a qui sont critiques du terme abolitionnisme. Peux-tu nous en parler? Qu'est-ce que le mot abolition veut dire exactement pour toi?
Mais il y a deux aspects de ça. D'abord, comme mon premier point sera de dire que tout à fait, on peut avoir une critique très réelle dans le sens que d'abolir la prison, ça veut dire quoi? C'est une question tout à fait pertinente parce qu'on ne peut pas vraiment abolir une institution de la société juste le faire disparaître. C'est sûr que si c'est lié à la suprématie blanche, le capitalisme, le patriarcat, l'homophobie, toutes sortes de choses, on peut pas juste faire l'abolir. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui se disent abolitionnistes qui n'ont pas une critique de toutes ces autres institutions que je viens de mentionner. Donc ça, pour moi, ce n'est pas très réaliste de dire on va juste abolir la prison et le reste de la société, ça va rester comme il est. Pour moi, ce n'est pas réaliste et ce n'est pas juste non plus. De l'autre côté, le terme abolitionnisme, ça fait un lien direct à l'abolitionnisme de l'esclavage. Et il y a beaucoup de gens dans les mouvements abolitionnistes qui font ce lien très fortement dans le sens que la prison est une institution profondément suprémaciste blanc, profondément coloniale. Alors, quand il y avait le mouvement abolitionniste de l'esclavage, cet mouvement n'a pas tout à fait réussi. On a toujours l'esclavage à léguer la suprématie blanc. Et la suprématie blanc, c'est un des fondements de l'institution de prison. Donc, pour beaucoup de gens qui se disent abolitionnistes, c'est que c'est le même mouvement. C'est toujours le même mouvement. C'est une continuation de le mouvement abolitionniste qui existait il y avait un peu plus d'un siècle. Et pour moi, en tant de personne noire, de personne antiraciste, c'est important de faire ce lien. Donc, c'est pour ça, en partie, que je me dis abolitionniste et pas juste une personne anti-prison. L'autre chose est qu'il y a l'abolitionnisme du prison, il y a aussi l'abolitionnisme carcéral. Et pour moi, l'abolitionnisme carcéral est plus pertinent, c'est plus large dans le sens qu'il y a aussi des autres instances carcérales, il y a aussi des autres façons d'enfermer des gens, c'est-à-dire les choses qui se disent les alternatives à prison, donc mettons des bracelets GPS où des gens sont confinés chez eux, mais toujours surveillés par l'État et pas capables, pas permis de partir de chez eux. Il y a des frontières, il y a des hôpitaux psychiatriques fermés. Là, je dis hôpitaux dans des guillemets. C'est pas des vrais hôpitaux pour moi. Il y a personne qui va se guérir là. Alors, c'est ça, l'abolitionnisme carcéral. Donc, c'est-à-dire l'abolitionnisme du prison, de toute autre instance carcérale et avec un lien historique à l'abolitionnisme de l'esclavage.
Et qu'est-ce qu'il en est du féminisme carcéral?
En fait, en parlant, je me suis rendu compte que dans une des autres questions, j'aurais voulu parler un peu plus de la patriarcat spécifiquement, parce que une partie du discours des prisons très centrale est que la prison est là pour nous garder en sécurité, de nous protéger des personnes qui sont emprisonnées. Et parmi les luttes révolutionnaires, je pense qu'il y a dans tous les mouvements des éléments réformistes qui ont pour réponse à leur oppression qu'il faut punir les gens, et entre autres avec la prison. Mais surtout en les luttes anti-patriarcat et surtout en les luttes contre la violence contre les femmes, il y a des éléments qui exigent les peines plus longues, les lois plus sévères. Il y a un nom pour ça, c'est le féminisme carcéral. Et là, dans les années récentes, ça me donne beaucoup d'espoir de voir un dialogue en dedans des mouvements féministes comme quoi le féminisme carcéral, c'est un grand problème et c'est pas une solution à la sexisme de enfermer les gens parce que ça améliore pas la sécurité des femmes. Et on voit avec les lois plus sévères que c'est souvent les femmes qui se retrouvent derrière les barreaux pour se défendre. Donc voilà, c'est ça que je voudrais ajouter, parce que c'est souvent une question que des gens ont. Comment est-ce qu'on va être en sécurité? Comment est-ce qu'on va se protéger? Et c'est comme une trap, on dit en anglais, de penser que la prison va nous protéger et de faire recours à ça comme revendication dans nos autres mouvements.
Tiré pour vos mecs, chose au clan. À ma setup, y'a des mecs dans mon gauche. Je rentre pas dans le chaos, je trouve magique. Oh gars, j'entrerai peu fuck à propos des commentaires. Si tu fuck la popo, t'es un menteur. Comment j'en pas qu'il le cut dans ton menteur? Le clac clac est tendre, c'est beau que j'ai fait. Quand je vais tâter ton opinion, à ce step fuck. C'est pas que tu sportes, c'est pas pareil. Tes copains sont d'accord, ça doit être correct. J'espère pour visiter vos classes et les tuer. Je prends une série, no thanks, sorry. Ben du courage derrière ton écran. Sans entourage, ça ne sert à mon cran. Je fais tout le travail quand je démolis ta bouche. Je dis merci, maman, reste poli. Je dis tu fais ce point parfait. Ou qui a bossé, pas le temps à me perdre dans des débastères. J'pense à te faire des choses terribles comme Nick qui aime dans Tocqueville. C'est mon wifi fait chaud depuis que j'suis rentré dans la pièce. C'est mon infant show. Tu pris des bonnes places, fin, il se passe quelque chose comme point d'en fâche et hit the fam. À ce tout est en place. Passe le mic, j'crois j'l'ai pas t'écouter. Chance mince, que j'me rappelle tes catés. J'm'en calme tes commandes, t'es plus tôt tes cafés. T'as mes voyages, what else? T'as un petit DJ à côté. J'sais pas pourquoi j'suis aussi peur. Oh gentleman, t'es parce que j'ai pas peur des araignées. J'suis officiellement donné avec les gars moyens. Next time, si c'est fond, si je fais payer. Trop vieux pour attendre après un putain. C'est ce que je suis en train de migrer en putain de tic. J'ai oublié faire genre on pourrait se revoir. Manquer d'étiquette ou en way ticket. J'pense avec détermination dans un cul-de-sac. Quand la vedaine j'suis strong, j'suis pas cul-sac. J'peux pas gérer touche back, j'cherche tout de fort. J'suis nique c'est l'ambiance et j'écoute fort. J'suis pas sa défense sur ce que ça peut fort. Pour ce que t'as ta bouche, j'suis petit goût de fort. T'as même mis chez fond du bac, t'as un clown. Ah, j'commence même pas avec toi, j'te laisse tout de fort. J'crache du feu, j'ai des pensées toxiques. J'veux pas crash and burn, j'élimine les toxines. J'colle sur les chocs, les mon flow au chat. Quand j'ai mon unball et jazz comme Jack Neating. C'est un ton, je monte un doigt. La base au fond, on monte sur le toit. Je suis chippé dans le fond, sur des chemins étroits. T'es comme un chèque sans fond, personne n'a besoin de toi. Tu pensais que j'hésitais pas parce que j'ai pas dans ton screen. Juste lève la tête, je fais jam comme screen. Puis personne n'a d'être, tu fonds déjà comme ice cream. Tu vas taffer tes filets, tu peux faire des streams. Oh, mauvaise nouvelle.
Alors, être abolitionniste, ça implique quoi en termes concrets? Comme action, comme stratégie ou comme engagement politique?
Pour moi, je commence par la fin. Comme engagement politique, pour moi, c'est central. Quand je me suis radicalisée, quand je suis devenue militante, au début, c'était pas contre les prisons. Je faisais du militantisme féministe, queer, antiraciste, et ça m'a pris quelques années pour comprendre que la prison est centrale dans toutes ces luttes. C'est une façon d'opprimer des gens, des mouvements. Beaucoup de mon travail avec les prisonniers, c'était avec des prisonniers politiques, dans le sens que c'était des prisonniers incarcérés pour leur rôle dans des autres des autres mouvements sociaux. Donc, si on est sérieuse à opposer et à vaincre le patriarcat, le capitalisme, la suprématie blanche, le colonialisme, la transphobie, et là, je peux continuer la liste, toute forme d'oppression, toute structure qui nous opprime, c'est important de ne pas avoir des murs en dedans de nos luttes. Donc, c'est de inclure tout le monde, incluant les prisonniers et les prisonnières dans nos luttes, et de viser l'institution de prison comme une des cibles de toutes ces luttes. Donc, là, c'est une réponse un peu plus théorique. Pour aller un peu plus dans le concret, quand j'ai mentionné tantôt, il y a comme deux pistes. Il y a la piste abolitionniste en tant que telle, c'est-à-dire pour la lutte anti, la lutte contre les prisons. Il y a aussi le côté plus visionnement des alternatives. Honnêtement dit, moi, je suis moins impliquée dans la partie vision, mais juste, je trouve l'important de le mentionner. Mais en termes de ce qui est le côté plutôt anti, c'est prendre le leadership des prisonniers et prisonnières, donc de soutenir les luttes qui se font en dedans des prisons. Et il y en a plein. Il y a des grèves de faim, des grèves de travail où les prisonniers refusent de travailler. Il y a toutes sortes d'autres actions. Donc, d'être en lien avec ces luttes-là, de prendre un leadership de ces gens. Et ça veut dire des fois de faire des choses qui ont pas juste la destruction complète du présent comme exigence, comme but. Donc, des fois, il y a des prisonniers, des prisonnières qui réclament, mettons, des conditions un peu moins sévères. Et des fois, nous, les militantes, en dehors des prisons, on peut trouver ça un peu réformiste, mais c'est une lutte très concrète pour améliorer les conditions de vie de nos camarades. Donc, d'être en solidarité avec ces luttes, c'est très important. Et d'y amener un regard abolitionniste. C'est d'avoir un dialogue comme quoi ces luttes font partie d'une lutte plus large. Aussi très important concrètement, et d'opposer tout ce qui est l'expansion des prisons. Ces jours-ci, il y a beaucoup de surpopulation dans les prisons qui existent. Beaucoup de prisons sont très vieux. Donc, des fois, on peut avoir des revendications pour des nouvelles prisons, des prisons qui se disent meilleures. Et c'est très important d'opposer à ça, dans le sens que quand on construit des nouvelles prisons, on va les remplir. On voit ça très clairement quand on regarde l'histoire plus ancienne et l'histoire très récente, que c'est super important de toujours opposer ça. Et ça, c'est une des choses que les abolitionnistes font beaucoup. Je sais qu'actuellement, à Montréal, il y a une campagne contre une nouvelle prison immigrant qui se fait. Et alors voilà, je pense que je vais terminer là.
Bref, plutôt que d'être une lutte secondaire, militer pour l'abolition des prisons constitue une nécessité en soi pour quiconque souhaite réellement s'attaquer au système capitaliste. Levier de production des inégalités sociales, les prisons oppriment, marginalisent et se basent sur une vision patriarcale et suprémaciste de la société pour punir. Édifier un monde anti-autoritaire passe donc nécessairement par l'abolition des prisons et de manière plus juste du système carcéral qui se reproduit par l'enfermement des personnes stigmatisées comme indésirables. S'il peut sembler à première vue irréaliste de régler le tort commis par les membres d'une communauté sans avoir recours à l'État, comment s'empêcher d'arriver au même constat avec le système carcéral? N'est-il pas fondamentalement irréaliste d'espérer régler tous nos problèmes sociétaux en enfermant toutes les personnes ayant causé du tort? S'il faut lutter activement pour l'abolition et contre l'extension du système carcéral, Oublier les personnes y étant actuellement enfermées apparaît cependant comme non souhaitable. Et ce, surtout pour les personnes n'ayant jamais été emprisonnées ou n'étant pas en contact avec des personnes emprisonnées. De la réduction des méfaits à l'autonomie radicale des collectivités, sans oublier les formes de justice alternatives comme la justice réparatrice ou transformatrice, de nombreux exemples de communautés refusant d'avoir recours au système punitif pour régler le tort causé se doivent d'inspirer nos trames de résistance collective. Un dernier mot pour vous inviter à la manifestation anticapitaliste du 1er mai à 16h au parc Jarry, coin Saint-Laurent et Gary Carter. La manifestation de cette année a pour thème « Pas de retour à la normale » parce que nous refusons autant le monde pré-pandémique que l'avenir néo-capitaliste qui se dessine. On se voit dans la rue!
La popo, t'es un menteur.
Hey, this is Roxanne Shante, and of course you know I am listening to CKUT 90.3.
The rhymes you're about to hear me recite are dedicated to all of those that...
The show you're about to hear may contain profanity or harsh language. The opinions expressed by the programmers are not necessarily the opinions of CKUT. If you have a complaint about anything that you hear on air, you can email us at programming@ckut.ca.
I'm going to avoid spreading COVID-19. It's easy. I'll wear a mask in crowded places. If I have symptoms, I'll self-isolate and do a rapid test. If I test positive, I'll stay home for at least 5 days. And for the next 5 days, I won't visit anyone who's at risk. I'll avoid social events like festivals and gatherings. And I'll limit my activities to only the most essential, all while wearing a mask and staying 2 meters away from others. The virus is still out there, so we have to be careful. A message from the gouvernement du Québec.
Boogie Brown. How do you expect me to love you when you can't even trust? So he played you, right? Shot a little game and he blazed you, right? Talking about he was gonna make you right, to make you right. And the last thing you seen was his car break light. He fooled you, girl. Pussy is power. Let me school you, girl. Don't get up off until he move you, girl. And let no blame, nigga.